Derrière les chiffres, il y a une question qui n'est pas toujours abordée. Quel système de santé voulons-nous collectivement ? Répondre à cette question, c'est aussi s'interroger sur quels moyens mettre sur quel secteur. Alors, deux invités ce soir en studio pour en discuter et débattre. L'économiste Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'ESCP Business School, président fondateur de l'Institut Santé, et le docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'AMUF, qui est l'Association des médecins urgentistes de France. Vous êtes par ailleurs délégué national de la CGT Santé. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Je voudrais commencer par votre regard, parce que vos regards ils sont importants, car on a souvent tendance à opposer le budget et le service rendu pour notre santé. Que pensez-vous, Frédéric Bizard, des premiers éléments dont on dispose, un budget qui tente de limiter les dépenses ?
Il est dans la continuité d'une approche purement comptable de la santé. Vous avez bien vu qu'on n'a pas du tout parlé de santé publique. On n'a pas parlé d'améliorer l'efficience des dépenses. On parle juste de raboter des prix, des salaires ou de dérembourser. Mmh. Sans se préoccuper, comme si l'assurance publique avait le même rôle que les mutuelles. Donc on pense qu'on fait un jeu de bonneteau. On fait un transfert, comme dirait un enfant de 10 ans. Mais c'est évidemment... On se rapproche de la fin du modèle solidaire, parce que là, on est dans la porte d'entrée du système de soins, qui est la consultation médicale que l'on va faire quand l'on va transférer aux mutuelles. On va être à 60% cette année. L'année prochaine, on sera plus qu'à 50-50. On mettra des réseaux de soins. On aura un modèle à l'américaine où chacun, en fonction de son contrat privé, aura un accès ou pas à un certain type de médecin. Donc ça, vous voyez, c'est un changement de modèle. Donc le travail de l'Institut Santé depuis 2018, qu'on a fait avec de nombreuses personnes d'horizons très différents, c'est d'essayer de trouver, exactement de répondre à la question, quel système de santé demain ? Il faut trois choses, le système de santé de demain. Il faut qu'un système qui permette un vieillissement en bonne santé avec un bras armé du maintien en bonne santé. Ça, il n'y a même pas le seul mot qui est évoqué dans ce budget. Par exemple, les mutuelles qui ont des fonds relativement importants pourraient être, par exemple, sur cette prévention. Mais là, on leur dit, vous allez faire le même travail parce que vous êtes pareil, vous êtes comme l'assurance maladie. La deuxième chose, c'est quand même de partir des besoins et d'arrêter de partir simplement d'une offre. Il faut territorialiser, évaluer les besoins. Il faut faire de la santé publique, quoi. Il faut arrêter de faire simplement de la comptabilité. C'est pas de l'économie qu'on fait, c'est de la comptabilité. Et la troisième chose, c'est de réinventer une démocratie sanitaire et sociale pour redonner du sens.
Je vous voyais réagir à ce que disait Frédéric Bizard sur la question de ce budget. On ne parle pas assez, en réalité, de la santé quand on lit comme ça un budget ?
C'est-à-dire que les conséquences, elles sont claires. Ce sont ce qu'on appelle, nous les urgentistes en particulier, des morts évitables. Voilà, il faut être clair. C'est-à-dire que quand...
C'est-à-dire...
Eh bien, je vais vous expliquer. Quand un patient, parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières et que des lits sont fermés, et qu'on a les patients sur des brancards aux urgences, un patient qui reste sur un brancard aux urgences en attendant un lit, parfois 12 heures, 24 heures, 36 heures, c'est une surmortalité, tout patient confondu, de 9%, et une surmortalité pour les patients les plus graves, qui nécessitent ce qu'on appelle des soins intensifs, de 30%. Mmh. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est là... C'est le quotidien dans nos services d'urgence. Sans parler de la question des petits-enfants, des bébés, la Société française de néonatologie dit qu'on manque de places de réanimation, on a fermé trop de maternités. Et donc, si on avait les mêmes indicateurs qu'en Europe du Nord, on sauverait, en France, chaque année, entre 800 et 1200 bébés. Voilà.
Donc ça, mais ça, c'est une histoire de moyens ou c'est une histoire d'organisation ?
C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Mais pour qu'on réorganise, il ne faut pas, d'un seul coup, nous couper les moyens. Vous voyez, quand vous dites 18 milliards d'euros, mais vous savez, les 18 milliards d'euros, c'est juste le montant des exonérations de cotisations sociales sur les revenus annexes, c'est-à-dire l'intéressement, les primes, la prime Macron, les heures supplémentaires. Et sur ces 18 milliards, l'an dernier, l'État, qui devrait en rembourser la totalité à l'assurance maladie, n'en a remboursé que 6 milliards. Donc le problème, ce n'est pas qu'on dépense trop dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas assez de recettes. Mmh. On a créé sciemment le trou de la Sécu pour faire les réformes que décrivait Frédéric Bizard, c'est-à-dire que M. Macron, il faut être clair, il veut nous mener à un système à l'américaine. Et nous, les médecins dans les hôpitaux, on ne veut pas porter la responsabilité de mauvais soins aux patients, de maltraitance, que nous disent nos collègues aides-soignantes et infirmières dans les EHPAD, parce que c'est ça la réalité.
Et avec un changement de système et la fin du modèle solidaire dont vous parliez tout à l'heure, Frédéric Bizard, juste pour revenir sur d'un mot ce que disait Solène Lehen, revenir sur les fraudes, sur le transport sanitaire, réduire le coût de l'intérim, pardonnez-moi, mais ça fait des années qu'on en entend parler.
Mais ce budget est la démonstration par la preuve de l'usure d'un modèle, que le fait que d'être toujours sur des espèces de litotes en permanence qui sont des sujets, mais qu'on ne traite pas à la cause, qu'on ne traite pas par des réformes structurelles, qu'on traite soit en déremboursant, soit en faisant en sorte que ça coûte moins cher. Donc, quand vous regardez à 3 ans ce budget-là, on est encore dans des déficits importants. Ça veut bien dire que la méthode est mauvaise. Parce qu'encore, si on avait l'argument de dire, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord, d'accord, parce qu'on prend des mesures d'économie, mais au moins ça permet de rétablir un équilibre budgétaire. Mais là, vous dégradez le système, et en effet, vous allez changer de modèle, et je vais y revenir, mais en plus, c'est inefficace sur un plan comptable. Donc ça montre bien que sans réforme de structure, vous ne pouvez plus rééquilibrer le modèle. Donc vous avez deux choix, enfin un choix entre deux options. Ouais. Le premier, c'est de faire ce que l'on fait, c'est-à-dire de dire, bon, désolé, on ne peut plus le sauver, le modèle. Donc on va en effet vers ce modèle à l'américaine où on dit on est obligé de dérembourser, l'assurance maladie ne peut plus être le bouclier sanitaire.
Mais ça, c'est ce qui se passe vraiment, on est vraiment vers un modèle à l'américaine.
Vous savez, la question aujourd'hui, elle est claire.
Christophe
Est-ce
Prudhomme.
Que la santé, ça relève du marché? Et aujourd'hui, on a vu ce que ça donnait avec les EHPAD et les crèches, hein, je prends la santé au sens large, ou est-ce que c'est un service public dans le cadre de l'aménagement du territoire? Parce que le problème aujourd'hui, on ne régule pas l'installation des médecins, et aujourd'hui, vous avez des déserts médicaux. Et pas toutes les régions ne sont pas traitées de la même manière. On ferme les hôpitaux de proximité. Donc, il y a quand même un problème. C'est-à-dire, si vous voulez...
Attendez, se soigner en France aujourd'hui, c'est... Alors, je ne veux pas dire totalement gratuit, mais c'est largement pris en charge par la collectivité.
C'est pris en charge par la collectivité, mais avec des grandes inégalités. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous voulez avoir une consultation rapide ou une intervention chirurgicale rapide, y compris à l'hôpital public, parce qu'on a maintenu un système d'activité privée à l'hôpital public. Soit vous avez l'argent et vous payez les dépassements d'honoraires, vous êtes pris en charge tout de suite, soit vous attendez. Et quand vous attendez, eh bien effectivement, votre état de santé se dégrade et il y a des conséquences et ça coûte beaucoup plus cher ensuite à la collectivité. Donc le problème aujourd'hui, c'est est-ce qu'on organise le système de santé sur la base d'un service public, de la médecine de ville, en passant par l'hôpital, les EHPAD dans les territoires, ou est-ce qu'on continue? Vous savez, c'est pas nous qui le disons. On peut me taxer de gauchiste, etc. Mais vous avez des rapports tout à fait sérieux qui parlent d'une financiarisation du système de santé. Financiarisation du système de santé. Le Haut Conseil des Finances Publiques, vous voyez, c'est pareil, ça dépend de Bercy, qui a dit le problème, c'est pas la fraude. Et en plus, dans la fraude, c'est 75% les professionnels de santé et les entreprises, la fraude sociale.
Mais ce sont pas les patients. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on manque d'argent ou que l'argent n'est pas suffisamment bien utilisé?
Non, mais parce qu'il faut faire un ajustement structurel. Vous parlez des indemnités journalières. Bizarre. Soit vous avez deux façons de faire. Soit vous les déremboursez, comme on fait... comme on veut le vert pour que ça coûte moins cher à l'assurance maladie, mais ça coûte in fine à qui? Quand vous déremboursez quelque chose, il y avait toujours un financement. Donc c'est la classe moyenne et la classe moyenne qui est plutôt pas en très bonne santé, souvent donc relativement âgée, mais sans pas simplement les plus de 80 ans, et qui paye le même montant de contrat d'assurance privée, ce qui n'est pas le cas puisque c'est pas redistributif, ce qui n'est pas le cas de l'assurance maladie où c'est redistributif, vous voyez. Donc vous changez de modèle, mais juste ces indemnités journalières, vous avez là aussi un choix entre dépenser de l'argent dans la santé au travail pour améliorer la santé au travail et donc diminuer ces indemnités journalières et donc améliorer l'état de santé de la population et donc d'ailleurs diminuer la demande de soins et d'ailleurs augmenter le développement économique, puisqu'on sait qu'il y a un impact entre une meilleure santé et un développement économique, ou faire le rabot, ce que l'on fait depuis
disant,
une quinzaine d'années. En disant
moins d'arrêts maladie.
Mais vous augmentez les arrêts maladie puisqu'en fait les gens... Oui, c'est un cercle vicieux dont on ne veut pas sortir.
Frédéric Bizard, vous publiez demain un livre qui s'appelle « Les itinérants de la santé », cette édition Michel. C'est une sorte de roman qui met en parallèle deux pays, l'un qui aurait réformé son système de santé et l'autre non, avec des conséquences sur des dizaines d'années. Si je vous lis bien, la France est actuellement le pays qui ne réforme pas son système de santé et qui va dans le mur.
Ah mais qui? Ben on l'est. Enfin, c'est encore une fois la démonstration par la preuve de ce budget, si vous le regardez à 3 ans, que le rabotage d'abord abîme le service public de santé et ensuite ne règle pas la question du déséquilibre budgétaire. C'est la démonstration par la preuve que c'est par des réformes de structure qu'il faut d'ailleurs financer et que sur lesquelles dans 3-5 ans est-ce qu'on aura les moyens de les financer.
Vous savez, il y a une solution immédiate qui permettrait de retrouver des marges de manœuvre. On n'a pas besoin de la sécurité sociale et des assurances maladie complémentaires qui sont de moins en moins des mutuelles mais qui sont des assureurs. Si vous avez un seul organisme prélève vos cotisations. C'est pas étatisé. Non, au contraire. Et si vous étatisez, le financement par l'impôt, on a vu ce que ça a donné dans un pays comme la Grande-Bretagne quand vous avez une Madame Thatcher qui arrive. Heureusement qu'on a la sécurité sociale qui collecte des cotisations sociales et c'est pas l'État, les cotisations sociales. C'est notre argent, c'est le salaire différé. Donc c'est notre argent, c'est l'argent qu'on met pour avoir des soins pour la retraite des vieux, ça s'appelait comme ça, c'est la sécurité sociale. Il ne suffit pas de citer le Conseil national de la résistance, il faut savoir pourquoi il y a la sécurité sociale. Donc c'est une partie de notre salaire qu'on verse dans une caisse. Donc on veut pouvoir en avoir le retour. Vous savez, là, il y a le débat sur la loi de finances de la sécurité sociale. Est-ce que vos auditeurs savent que l'État prélève sur l'argent de la sécurité sociale, sur les salaires de tous les soignants, un impôt qui s'appelle la taxe sur les salaires? La taxe sur les salaires, c'est 5 milliards d'euros. On prélève un impôt sur les salaires. Ben, cet impôt, on peut le supprimer et on récupère de l'argent.
Moi, je vous entends, vous dites qu'il faut réformer le système. Mais j'ai quand même l'impression que ces dernières années, quand on a dit « on réforme le système, on le remet à plat », tout le monde s'est braqué.
Non,
tous les secteurs.
Mais c'est l'issue. Quand vous proposez les réformes qu'ils proposent, qui sont des réformes complètement inefficaces, ils nous proposent des réformes qui n'en sont pas. C'est quoi leur réforme? C'est de taper, soi-disant, sur les fraudeurs.
Il y a quelques mois,
le travail qu'on a fait depuis 2018, la création de l'Institut, est la preuve que ça peut marcher. C'est-à-dire que c'est un travail.
Alors, qu'il faut y passer du temps. Il faut réformer le système.
Ouvrir des centres de santé avec des médecins salariés qu'on implante là.
Non, mais d'abord, il faut trouver le compromis. Juste sur votre point, vous dire, on n'arrive pas à trouver des compromis. C'est le résultat d'un compromis. Vous voyez bien qu'on n'est pas d'accord sur tout avec Christophe Prudhomme, mais on est d'accord sur vers où il faut aller. Il faut aller vers un financeur unique. Christophe est pour aller pour un financeur unique à 100%. Nous disons qu'il faut un financeur unique, mais qui doit garder une part de responsabilisation et tout. Bon, vous voyez, mais donc il y a une partie sur laquelle il faut créer des ponts entre les gens. Moi, il faut lire le livre pour voir les solutions concrètes. On pourrait parler du contrat thérapeutique, on pourrait parler du compte personnel de prévention, on pourrait parler du financeur unique, on pourrait parler du service public territorial. Il y a tout un tas de mesures très concrètes dans ce livre. Mais le plus important, c'est ce que vous avez dit là. Est-on capable de réformer? Est-ce une montagne que l'on ne peut pas gravir? Ou en sommes-nous capables? Je pense que ce travail-là, le résultat de ce travail, est la preuve qu'on peut trouver un compromis à 80-90% sur lequel des gens qui ont une sensibilité très à gauche, des gens qui ont une sensibilité plus libérale, peuvent se retrouver sur un projet commun. Un système de santé, ce n'est pas un système de gauche ou de droite, c'est un projet commun de société.
Frédéric Bizard a raison sur le fait qu'on pourrait trouver un large consensus, mais pas avec les gens qui accompagnent M. Macron aujourd'hui et qui considèrent que la santé, comme l'éducation, c'est un marché comme un autre. Et que donc, il peut y avoir un secteur
privé. Mais ce n'est pas qu'une histoire de politique,
mais
là.
Mais si, c'est...
Une histoire d'administration, une histoire de gouvernance.
Mais non, la question du système de santé, c'est complètement politique. Pourquoi il y a le système américain avec le marché ultra-dominant, très inégalitaire? Parce que c'est une logique de la santé marchandise, de l'hôpital-entreprise. Nous considérons, et la majorité du personnel qui travaille à l'hôpital, y compris une partie de nos collègues qui sont en ville, qui sont libéraux, entre guillemets, et qui sont salariés indirects de la sécurité sociale, considère que la santé ne doit pas relever du marché. Je vous ai cité des exemples qui montrent que ça ne fonctionne pas et que c'est source d'abus majeurs. Vous savez combien a coûté la faillite d'Orpea au gouvernement, puisqu'il a sauvé les actionnaires? Quasiment 4 milliards d'euros. Et là, sur les crèches, le scandale, avec une ministre qui a magouillé pour sauver ses amis. Écoutez, les problèmes, ils sont là. C'est un problème politique avant tout. Ce n'est pas un problème d'administration et d'abus, soi-disant, du personnel ou des assurés sociaux.
C'est un problème politique, mais c'est aussi un problème. C'est une question de société, dans quelle société nous voulons-nous vivre. Et c'est une question de culture d'un pays. Si nous avons un système de santé qui est républicain, qui recherche l'égalité, la liberté et la solidarité, c'est bien parce que nous avons cette culture-là. Donc, refonder ne veut pas dire de faire une éradication de ces valeurs fondamentales. Ça veut dire de conserver les fondamentaux de notre système, mais d'adapter le système proprement dit à son environnement.
Merci beaucoup, messieurs. Frédéric Bizard, économiste, professeur d'économie à l'ESCP Business School, président fondateur de l'Institut Santé. Et vous étiez avec le docteur Christophe Prudhomme, porte-parole de l'AMUF, qui est l'Association des médecins urgentistes de France, délégué national de la CGT Santé. Merci beaucoup d'avoir débattu. Et on voit qu'effectivement, parfois on n'est pas d'accord, parfois vous l'étiez, et que c'est peut-être à travers de recherches de compromis qu'on peut réformer notre système. Merci beaucoup.